Bonjour ou bonsoir, c'est Christiane Charrette qui vous parle. Vous trouverez ici en balado-diffusion quelques extraits de notre émission d'aujourd'hui. En direct, mercredi 16 septembre, c'est Christiane Charrette qui vous parle. Nous allons ce matin vous parler d'éco-terrorisme et nous sommes les premiers surpris, en fait, puisque nous préparions ce dossier depuis déjà quelques semaines. Nous avons rassemblé 3 personnes pour en parler, pour en discuter, dont le journaliste François Cardinal, avec qui je commencerai l'émission d'aujourd'hui. Et en fait, il y a eu cette attaque hier en Alberta, dans les sables bitumineux. On va en parler plus en détail, mais donc l'éco-terrorisme deviendra, semble-t-il, est de plus en plus présent. C'est une forme de terrorisme de désobéissance civile. Et il y a cet incident, donc, qui s'est déroulé hier, qui donne encore plus d'actualité à ce thème de l'éco-terrorisme. Nous allons accueillir aussi le comédien Luc Picard, qui sera lui aussi avec nous en première heure. Et puis, les étudiants de Sciences Po, de sciences politiques, mais on les appelle toujours les étudiants de Sciences Po, à Paris, sont considérés comme des nerds et des gens peut-être trop sérieux. Ils ont la réputation d'être un peu sérieux, là. Alors, ils en avaient assez de ça et ils ont décidé de créer une revue sérieuse, mais érotique, dans lesquelles il y a des textes pour analyser, pour informer, pour titiller, et des textes donc qu'ils écrivent avec des photographies, des illustrations, et les photographies photographies érotiques, représentent des étudiants de l'école de Sciences Po, et nous allons parler donc au cofondateur de la revue et à la cofondatrice de la revue, ça c'est à la fin de cette première heure. Et puis, dans la deuxième heure, nous sommes très heureux d'accueillir Daniel Langlois, fondateur et propriétaire d'Excentris. Excentris change de vocation. Les mécènes, il n'y en a pas beaucoup. On le déplore dans notre culture, dans notre société. Il y en a peut-être de moins en moins. On n'est pas à la Renaissance italienne. Mais Daniel Langlois, en ce sens-là, est peut-être un homme de la Renaissance. C'est un vrai mécène. Et il va nous parler donc de cette vocation et de la nouvelle vocation d'Excentris en deuxième heure. Nous allons nous rendre au Festival du film de Toronto. Et nous commençons par les terrorisme. Mais avant d'accueillir nos autres invités sur cette question, je voudrais demander au journaliste François Cardinal d'entrer tout d'abord en studio. Si j'ai demandé à François Cardinal d'entrer d'abord en studio avant d'accueillir Bruno Massé et Anna Krusinski, que je vais vous présenter tout à l'heure, François, c'est peut-être, nous on travaillait sur ce dossier-là parce que c'est une tendance ou un mouvement qui est de plus en plus présent. Et hier, on n'en revenait pas quand on a vu les bulletins de nouvelles. Alors là, il y avait une attaque de ce qui s'est passé en Alberta, qui est alors vraiment une illustration de ce qu'est l'éco-terrorisme.
Je suis pas tout à fait d'accord.
C'est pas ça, non?
Non, c'est plus de la désobéissance civile. Greenpeace, c'est sa marque de commerce. C'est pas la première fois que ça arrive, même au Québec, il y a pas longtemps, au Saguenay, il y en a eu. Et donc, quand Greenpeace fait un coup d'éclat comme ça, c'est un peu une mise en scène pour mettre la lumière sur un problème, en l'occurrence les sables bitumineux, parce qu'évidemment, c'est l'année de la conférence de Copenhague en décembre, donc sur les changements climatiques. Greenpeace, ici, d'ailleurs, il y a quelques jours, dévoilait un rapport qui faisait le lien entre les sables bitumineux et les changements climatiques, et donc a décidé de faire ce geste d'éclat pour qu'on en parle, parce que à leurs yeux, les médias, les élus n'en parlent pas suffisamment. Et c'est un peu ça le but de la désobéissance civile et à la limite de l'éco-terrorisme. Donc, le lien, il est là.
Alors, la désobéissance civile, ça serait quelque chose qui resterait quand même civilisé, alors que l'éco-terrorisme irait plus loin. Et puis là, nos deux invités viennent d'entrer en studio. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça?
Je laisserai l'expert à côté de moi en parler davantage.
Je pense qu'il
personnages,
mais deux
si vous voulez,
en fait, oui.
Moi, je vous dirais qu'il y aurait peut-être trois subdivisions. La première étant la désobéissance civile, après ce que j'appelle l'éco-vandalisme, c'est-à-dire un peu de la désobéissance civile, mais on va un petit peu plus loin. On détruit des choses, par exemple. Je me rappelle des décorateurs masqués qui s'attaquaient aux camions publicitaires à Montréal il y a quelques années avec, par exemple, des planches cloutées qu'ils mettaient en dessous des camions. Alors ça, pour moi, c'est de l'éco-vandalisme. Et ensuite, il y a de l'éco-terrorisme. Là, on parle vraiment là, de bris de matériel énorme. On parle vraiment là, d'actions à grand déploiement. Là.
Oui, alors voilà, là, nos experts. Bruno Massé, bonjour.
Oui, bonjour.
Bruno Massé, vous êtes chercheur et auteur d'une thèse de maîtrise sur l'écologie radicale au Québec.
Oui.
Anna, bonjour. Anna Kruzinski, vous êtes professeur à l'École des affaires publiques et communautaires à l'Université Concordia, spécialiste des groupes de militants radicaux et des actions directes.
Oui, direct,
c'est ça. Ce qui s'est passé hier, est-ce que pour vous, c'est de l'éco-terrorisme? Est-ce que vous êtes d'accord avec François Cardinal ou de la désobéissance civile? Oui, Bruno Massé.
Non, je ne crois pas que c'est de l'éco-terrorisme. En fait, le terme même de l'éco-terrorisme, à mon sens, est assez farfelu. Je trouve qu'on peut parler d'écologie radicale, opposée un peu à l'écologie plus conventionnelle, disons mainstream. Et l'éco-terrorisme en tant que tel, à mon sens, sert uniquement à démoniser un mouvement qu'on connaît très peu et qu'on essaie de faire taire.
Le terme, vous voulez dire?
Oui, absolument.
Terme fait peur.
Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas de terrorisme. Il s'agit très rarement, mis à part peut-être l'exemple de Ted Kaczynski, communément appelé le Unabomber.
Ça a pris combien d'années avant qu'il a pu faire ça pendant plusieurs années?
Quelques dizaines,
envoyer ses copies
piégées. Entre 10 et 20 ans.
Ouais. Ouais, mais on parle finalement d'un criminel aussi.
C'est que lui visait explicitement à blesser des gens.
Oui.
Donc, dans le cas ici, ce qu'on voit tant avec Greenpeace qu'avec le NCANA Bomber dans l'Ouest, on vise pas à remettre en cause l'intégrité physique là, des gens ou des animaux. C'est une ligne directrice, je pense, de toutes les actions directes, écologistes, radicales, de ne pas blesser qui que ce soit.
Oui. Qu'est-ce que c'est NCANA Bomber?
C'est
ce monsieur-là qui envoie des lettres écrites à la main en disant que pendant l'été, il va prendre des vacances puis qu'il va recommencer à l'automne.
C'est ça. Il y a eu plusieurs bombes.
Est-ce que vous saviez ça, François?
Non, je ne savais pas.
Non, mais dans mon dossier, il y avait une copie. Alors, est-ce que vous saviez ça?
Non.
Alors, vous savez, Bruno, vous le savez, vous avez vu?
Je ne savais pas qu'il écrivait à la main, non.
Ça
me surprend un peu. Oui,
j'ai vu la lettre, c'est vrai, mais en même temps, il est quand même assez prolifique. 6 explosions en 10 mois. Bon, peut-être qu'il était dû pour des vacances.
Ouais. Mais lui, c'est un éco-terroriste. Si on revient avec notre terminologie, là,
C'est là où je suis pas d'accord, en fait. C'est que là, ce qui est visé, c'est effectivement du vandalisme. C'est un bris matériel. Dans une stratégie, je crois,
C'est les pipelines, lui, auxquelles
oui,
il s'attaque dans l'Ouest.
Ça. Oui, c'est ça.
En Colombie-Britannique.
C'est ça. D'emblée, c'est pour rendre l'exploitation non rentable. Alors, à ce moment-là, je crois pas qu'on peut parler de terrorisme parce que il y a pas de terreur, en cours. Je crois que c'est juste une façon pour faciliter, je pense, l'action gouvernementale pour criminaliser le plus possible là, ces actions.
Oui.
Je pourrais citer l'exemple de Jeff Lewis, qui est un activiste là, écolo aux États-Unis, qui a reçu 22 ans de prison pour avoir incendié 3 camions. Et dans le même état, je parle de la Virginie, pour meurtre, viol et kidnapping, on n'aurait pas 22 ans de prison.
Oui. Alors, donc, lui, pour revenir à lui, c'est ça, il les a prévenus en fait que pendant l'été, il allait arrêter prendre des vacances et qu'il reprendrait ses activités au retour, à la rentrée. Est-ce que vous êtes vous-même et je vais m'adresser bientôt à vous, à Anna. Mais Bruno, est-ce que vous êtes un militant, vous? Est-ce que vous êtes un universitaire? Vous regardez ça d'en haut ou vous êtes militant engagé?
J'ai participé à quelques actions plus spectaculaires, là, des obéissances civiles, manifestations et autres, là, ce qui m'a permis d'avoir peut-être une vue peut-être plus de l'interne là, du mouvement. Et c'est ce que j'ai tenté de faire là, par ma recherche, de représenter tous ces groupes écologistes radicaux qui sont très, très mal représentés.
Oui. Alors, dans votre cas, vous êtes professeur à l'Université Concordia. Anna Kruzinski, est-ce que vous êtes une militante ou vous êtes une intellectuelle qui observe ces phénomènes?
Je suis en premier lieu une militante, en fait, oui. Une militante qui prône ce que moi j'appelle l'action directe, en fait, qui pourrait aussi être un terme qu'on utiliserait pour décrire ce qui se passe, agir sans intermédiaire. Quand on atteint les limites des possibilités dans le système légal, si vous voulez, et il y a un appui populaire contre une pipeline ou contre les sables bitumineux, puis on voit finalement que les entreprises privées, les autorités publiques continuent à aller de l'avant avec des projets qui sont pas populaires. Moi, selon moi, on peut arriver au point où on décide d'agir sans intermédiaire pour bloquer des projets qui sont néfastes pour l'environnement puis pour l'être humain.
Est-ce que vous enseignez ça à vos étudiants?
C'est très subversif. Écoutez, c'est clair que j'enseigne, j'explique c'est quoi l'action directe dans mes cours. On parle aussi de toute autre forme de d'action collective qui peuvent exister effectivement. Mais j'essaie d'un peu de déconstruire les mythes finalement qui sont associés à l'action directe.
Alors ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, bon, ce que Greenpeace a fait hier en Alberta, qui était de s'enchaîner après qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils se sont enchaînés après des camions, là, parce que plus que des camions, c'est énorme, ces affaires-là. Mais
ils ont bloqué l'accès, en fait, aux installations de Shell, je pense.
Mm-hmm. Oui, c'est Shell. Oui, c'est Shell.
Ils ne peuvent pas faire, finalement, leur travail. Là,
est-ce que ça a un rapport avec le fait que Stephen Harper rencontre Barack Obama aujourd'hui à Washington et qu'il va être question des...
Oui,
de
certainement. Est-ce qu'il va être question? On ne le sait pas, mais évidemment que les écologistes aimeraient... Oui, eux autres aimeraient beaucoup qu'il en soit question. Oui. D'autant qu'il y a un dialogue sur l'énergie propre qui a été ouvert entre les deux pays. Donc, on espère que le sujet soit abordé. D'autant que les signaux qui nous proviennent des États-Unis ne sont absolument pas clairs pour l'instant. L'entourage de M. Obama, pendant la campagne électorale, avait dit « Ah, écoutez, si vous ne prouvez pas que vous pouvez faire une meilleure job avec les sables bitumineux en termes environnementaux, on n'en achètera tout simplement pas. » Or, les dernières décisions qui ont été prises sont plutôt favorables aux sables bitumineux parce que les Américains perçoivent